Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique et bonjour chers amis.
Bienvenue avec nous pour cette huitième leçon d'école du sabbat concernant la semaine du 15 au 21 août 2009. Et le titre, Bernard va vous le faire découvrir.
Des frères et sœurs aimants.
Le verset à mémoriser est celui que l'on trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 21.
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et quelques questions clés maintenant.
Quel enseignement Jean donne-t-il concernant l'importance de l'amour? Comment l'amour chrétien s'exprime-t-il? Comment le plan du salut révèle-t-il ce qu'est vraiment l'amour? Comment des pécheurs comme nous peuvent-ils avoir l'assurance du salut? Et comment le chrétien doit-il exprimer son amour?
Un pasteur reçut un jour la visite d'une femme qui était remplie de haine envers son mari. Non seulement elle voulait le quitter, mais elle voulait lui faire le plus de mal possible. Le pasteur lui suggéra de rentrer chez elle et de se comporter avec son mari comme si elle l'aimait vraiment. Elle devait lui dire combien il comptait pour elle et se montrer aussi gentille que possible. Une fois qu'elle l'aurait convaincu de son amour éternel, elle pourrait alors lui annoncer son intention de divorcer. Là, elle était sûre de le blesser au plus haut point.
Avec dans les yeux une lueur de vengeance, elle retourna donc chez elle et appliqua ses conseils à la lettre, pendant quelques mois, comblant son mari d'amour comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Puis, le pasteur l'appela au téléphone et lui demanda où en était le divorce. « Oh, il n'en est plus question, répondit-elle. J'ai découvert que j'aimais mon mari. » L'amour est capable de changer le monde, notre église, notre famille et notre mariage. Cette semaine, nous verrons une partie de ce que Jean déclare sur ce thème essentiel et nous apprendrons comment ceux qui se disent disciples de Jésus doivent exprimer leur amour.
Commençons donc cette semaine avec le dimanche 16 août 2009, et là nous allons voir...
Deux passages sur l'amour. Certaines similitudes existent dans ces deux passages que nous allons lire maintenant. Commençons avec 1er épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 24.
Les versets 11 à 12, dans un premier temps. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous continuons avec les versets 16 et 17.
À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Versets 23 et 24.
Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous poursuivons ces lectures avec la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 7 à 9.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Versets 14 à 16.
Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Nous continuons avec le chapitre 4 de la première épître de Jean, versets 20 et 21.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous continuerons avec la première épître de Jean, chapitre 5, versets 1 à 3.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Et oui, la ressemblance entre ces deux passages est remarquable. Tous deux reprennent plusieurs fois l'expression « s'aimer les uns les autres ». Tous deux soulignent que notre amour s'adresse avant tout aux autres croyants et ils nous mettent en garde contre toute haine éventuelle envers nos frères et sœurs. Tous deux insistent également sur l'amour de Dieu pour nous.
1 Jean 3, versets 11 à 24, porte essentiellement sur l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres. Il contient 8 variantes du verbe « aimer ». Mais dans la deuxième partie de ce passage, Jean élargit le sujet. Nous sommes appelés à aimer non seulement les enfants de Dieu, mais aussi Dieu lui-même, car Dieu nous a aimés le premier et nous aime toujours.
Quant à 1 Jean chapitre 4 verset 7 jusqu'à 1 Jean chapitre 5 verset 4, il doit être aussi compris dans le contexte du problème des antichrists. Ce passage déclare que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, qu'il s'est fait sacrifice expiatoire pour nos péchés et qu'il est devenu le sauveur du monde. C'est uniquement par lui et à travers ce qu'il a fait pour nous que l'on peut comprendre l'amour de Dieu dans son sens le plus profond.
Autrement dit, c'est seulement lorsque nous aurons compris ce qui s'est passé sur la croix et comment le Christ a pris sur lui le châtiment pour nos péchés que nous parviendrons à aimer Dieu comme nous le devrions.
Et voici maintenant la journée donc du lundi 17 août 2009 qui va nous apprendre à
définir l'amour.
Jean parle beaucoup de l'amour dans les passages que nous venons de lire, mais comment le définit-il et l'explique-t-il ? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Il est assez intéressant de noter que Jean ne cherche pas à donner de l'amour une définition lexicale. Il préfère commencer par montrer ce que l'amour n'est pas, en prenant un exemple, celui de Caïn.
Cet exemple négatif est suivi d'un exemple positif. Jésus, il a offert sa vie pour nous et le Père l'a envoyé comme sacrifice expiatoire pour être le sauveur du monde. Telle est la définition de l'amour la plus profonde qui soit. Aimer signifie faire tout ce qu'il faut pour aider l'autre, même si cela inclut de se sacrifier soi-même. Quel contraste avec ce que Caïn a fait à son frère. Aimer signifie aussi pardonner et oublier le passé. En ce qui concerne Jésus, cela impliquait un renoncement total à soi-même pour le bien des hommes.
Mais l'amour doit aussi avoir un impact sur la vie de l'autre. Si quelqu'un se jetait à l'eau et se noyait pour prouver son amour, cela n'aurait aucun sens. Mais si la personne qui s'est jetée à l'eau se noyait en essayant de sauver quelqu'un, alors ce serait là un acte d'amour. La meilleure définition de l'amour se trouve dans le caractère et l'œuvre de Dieu tel qu'il se révèle par le plan du salut, par le don que Jésus a fait de lui-même pour nous.
L'amour chrétien a sa source dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour signifie avoir avec Dieu une relation d'intimité. Il n'existe aucun amour, au sens biblique du terme, qui ne vienne en définitive de Dieu. Cependant, la déclaration selon laquelle quiconque aime et naît de Dieu et connaît Dieu pourrait être mal interprétée. Il faut la remettre dans le contexte de 1 Jean.
En effet, d'après Jean, la foi, ou ce qu'on peut dire croyance authentique, et l'amour vont de pair, ainsi que l'amour et l'observation des commandements également. N'importe qui peut déclarer qu'il aime Dieu, mais Jean nous explique comment on doit démontrer un tel amour.
Poursuivons donc notre étude avec le mardi 18 août de 2009 et nous avons aujourd'hui...
Une crise de confiance.
Aujourd'hui, nous reprendrons donc quelques versets de 1 Jean 3 et 4, et plus particulièrement ceux que nous avions laissés provisoirement de côté. Commençons donc par 1 Jean 3, les versets 18 à 21.
Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui, de quelque manière que notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et nous continuons avec la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 17 et 19.
Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier.
Quel chrétien, en s'examinant lui-même, en constatant ses faiblesses, son manque d'amour, ses défaillances, ne s'est pas senti, à un moment donné, condamné, coupable et même perdu? Il est important de ne pas oublier que Dieu est plus grand que nous, que notre culpabilité et que notre cœur. Il est essentiel que nous réalisions jour après jour que notre espoir de salut doit reposer uniquement sur Jésus et son œuvre pour nous. Ce n'est qu'en nous appuyant sur lui et sur ses mérites, et non sur les nôtres, que nous gagnerons en assurance et en confiance.
Dans 1 Jean, il est souvent parlé de confiance. Jean désire que les croyants s'approchent de Dieu par la prière avec confiance, qu'ils aient confiance en la réalité du retour de Jésus, confiance également dans le jugement divin. Dieu n'a que de bonnes intentions à notre égard, car nous sommes ses enfants. Être enraciné dans son amour chasse toute peur.
Satan sait que ceux qui demandent à Dieu son pardon et sa grâce les obtiendront. C'est pourquoi il met leurs péchés devant leurs yeux pour les décourager. Il cherche constamment l'occasion de se plaindre de ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu. Il essaie de faire en sorte que même le service qu'ils effectuent du mieux possible et qui est tout à fait acceptable apparaisse comme étant corrompu. À l'aide d'innombrables ruses, les plus subtiles et les plus cruelles, il s'efforce de rendre certaine leur condamnation.
L'être humain ne peut par lui-même récuser les accusations de l'ennemi. Il se tient devant Dieu dans ses vêtements souillés par le péché, confessant sa culpabilité. Mais Jésus, notre avocat, présente une requête efficace en faveur de tous ceux qui, par la repentance et la foi, lui ont confié la garde de leur âme.
Ils plaident leur cause et, par les puissants arguments du calvaire, remportent la victoire sur leur accusateur. L'obéissance parfaite de Jésus à la loi de Dieu lui a donné la toute-puissance sur la terre et dans le ciel, et il demande à son Père qu'il accorde la miséricorde et la réconciliation à l'être humain coupable. Voici ce que nous déclare Ellen White. Et quelle espérance ne retirons-nous pas de ces paroles inspirées ?
Oui, poursuivons maintenant cette étude avec le mercredi 19 août 2009. Et là, il s'agira de...
Vivre l'amour.
Jean ne se contente pas de théoriser sur l'amour. Il nous fait savoir que Dieu désire nous voir mettre l'amour en pratique. C'est pourquoi il déclare que la haine est incompatible avec un comportement aimant et qu'elle est même une forme de meurtre. Il dit également que nous ne devons pas aimer en parole seulement, mais aussi en acte.
Jean, bien sûr, n'est pas contre le fait de prononcer des paroles de bonté et d'encouragement. Les mots sont importants pour exprimer l'amour. Que ressentiraient nos conjoints, nos enfants, nos proches ou nos amis s'ils ne recevaient jamais de nous des confirmations verbales de notre amour ? Jean lui-même a utilisé des mots pour faire part de l'amour de Dieu aux autres hommes.
En revanche, Jean se dresse contre les témoignages d'amour superficiels qui n'engagent à rien. Dans 1 Jean 3,17, il décrit une situation similaire à celle qui est citée dans Jacques 2, versets 15 et 16. Un membre d'Église se trouve dans le besoin. D'autres membres ont les moyens de l'aider, mais ils se contentent de l'encourager. Cela ne suffit pas. Dieu ne nous a pas seulement dit qu'il nous aimait, il a aussi envoyé son Fils pour mourir pour nous. Celui qui aime beaucoup agit beaucoup, parce que l'amour authentique est infatigable.
Et relisons à présent, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 17. Et voyons si ce commandement n'est pas le plus difficile à observer et pourquoi. Donc Bernard, 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 17.
À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ?
Il est improbable que l'un de nous soit un jour appelé à mourir pour un autre croyant. Mais nous sommes certainement appelés à témoigner de l'amour à des personnes dans le besoin. Peut-être avons-nous les moyens de les aider à trouver un travail, de leur donner de la nourriture ou encore des vêtements, ou bien une éducation chrétienne, un lieu de refuge et beaucoup d'autres choses. Et pourtant, nous préférons continuer à mener notre petite vie confortable. Les premiers chrétiens partageaient leurs ressources. Aimer les autres constitue un défi, notamment parce que cela exige des sacrifices de notre part.
Mais s'il est un endroit où il nous faut manifester de l'amour, et cela dans des conditions parfois les plus difficiles, eh bien, c'est bien le foyer. Il y a une infinité de façons de démontrer notre amour aux membres de notre famille. Il suffit parfois de toutes petites choses, mais qui ont un grand pouvoir pour faire savoir à l'autre qu'il est aimé et accepté. L'aider davantage à la maison, préparer un bon dîner, organiser une sortie en famille... Il existe de nombreuses façons de témoigner son amour. L'amour pense d'abord aux autres. Mieux que cela, il agit en leur faveur.
Et maintenant, je vous invite à imaginer ce que serait vivre dans un foyer où s'exprimerait un amour authentique. Quel changement nous serait-il possible de faire pour que notre foyer se rapproche davantage de cet idéal ?
Nous arrivons maintenant au jeudi 20 août 2009 et là nous allons voir...
L'amour et les commandements.
Les passages étudiés cette semaine se terminent par une allusion aux commandements. Ce terme est utilisé 4 fois dans chacun de ces passages. Jean parle de l'observation des commandements et il souligne qu'il est important d'obéir, c'est-à-dire de garder les commandements.
Qu'enseignent donc ces passages à propos des commandements, mis à part le fait bien sûr qu'ils doivent être observés ? Eh bien, lisons ces versets. Tout d'abord, dans 1 Jean chapitre 3, verset 22.
« Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23 maintenant.
Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous continuons maintenant avec 1 Jean chapitre 4, verset 21.
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Continuons avec 1 Jean chapitre 5, verset 2 et 3.
À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Jean déclare que le fait d'obéir aux commandements de Dieu et de faire sa volonté donne aux chrétiens l'assurance que ses prières sont entendues. Or, le commandement de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus et que nous aimions les uns les autres. Nous nous aimions les uns les autres. Quand nous observons les commandements, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Aimer Dieu implique donc notamment de garder ses commandements, ce qui est possible parce qu'ils ne sont pas pénibles.
Quand Jean utilise le mot « commandement » au singulier, il désigne celui qui appelle à s'aimer les uns les autres et à croire que Jésus est le Messie. Dans le chapitre 4, le commandement dit que celui qui aime Dieu doit aussi aimer ses frères et sœurs.
Au docteur de la loi qui lui demandait quel était le commandement le plus important ou le premier de tous, Jésus a répondu en citant celui qui appelle à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, et à aimer son prochain comme soi-même. Mais il a aussi souligné que ceux qui aiment Dieu gardent ses commandements, et dans le Sermon sur la montagne, il a fait allusion à un certain nombre d'entre eux.
En passant du singulier au pluriel, Jean a peut-être voulu indiquer que le commandement sur l'amour se traduit à lui seul par toute une multitude de commandements divers. Comment, pour méditer, dans notre cheminement avec le Seigneur, pouvons-nous expérimenter les commandements divins comme autre chose qu'un ensemble de règles? Ne sont-ils que cela ou sont-ils davantage? Et s'ils sont davantage, quoi d'autre?
Nous arrivons au vendredi 21 août 2009 et nous allons lire, comme d'habitude, quelques extraits d'ouvrages divers et notamment d'Ellen White. Un premier extrait.
Nous ne devrions jamais passer à côté d'une âme souffrante sans lui faire part des consolations dont Dieu console nos cœurs. Tout ceci n'est que la mise en pratique du principe de la loi, ce principe qui a été illustré par le récit du bon samaritain et que la vie de Jésus a mis en évidence. Son caractère révèle la vraie signification de la loi et montre ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même.
Quand les enfants de Dieu font preuve de miséricorde, de bonté, d'amour à l'égard des hommes, ils rendent témoignage au caractère des statuts célestes. L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique d'amour du prochain.
Débarrassez-vous de votre attitude formelle, froide et figée aussi vite que possible. Cultivez dans votre vie quotidienne tendresse et amitié. Faites preuve de courtoisie vraie et de politesse chrétienne. Le cœur qui aime sincèrement Jésus aime ceux pour qui il est mort.
Tout comme l'aiguille de la boussole désigne le pôle nord, le vrai disciple du Christ, par des efforts sincères, cherche à sauver les âmes pour lesquelles celui-ci a donné sa vie. Œuvrer pour le salut des pécheurs gardera l'amour du Christ vivant dans le cœur et en permettra la croissance et le développement.
Et voici à présent quelques réflexions ou questions pour nous inviter à méditer. Nous avons tendance à penser que toutes les exhortations à aimer sont d'ordre personnel, une question entre Dieu et nous-mêmes. C'est peut-être en partie vrai, mais cela ne se limite pas seulement à notre personne. Par exemple, qu'est-ce que notre Église locale, en tant que corps, peut faire que nous, en tant qu'individus, ne pouvons pas faire pour témoigner de l'amour ? Dans quelle mesure notre Église locale réussit-elle à communiquer l'amour de Dieu à la population environnante ?
La Bible dit que l'amour vient de Dieu. On a du mal à imaginer qu'à elle seule, la matière et l'énergie naturelle, dont dérivent les atomes et tout ce qui nous entoure, ait pu avoir créé quelque chose comme l'amour. Comment l'amour, par sa présence, nous aide-t-il à mieux comprendre que Dieu existe ? Comment la façon dont nous exprimons notre amour révèle-t-elle à d'autres l'existence de Dieu ? En quoi en est-elle la meilleure preuve ? Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette semaine d'études.
Et nous vous disons à la leçon 9.
À la prochaine fois. À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.